Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Trends Talk. Nous recevons aujourd'hui Damien Ernst. Damien Ernst est professeur à l'Université de Liège. Alors, c'est quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme avant tout le monde, sans doute, sur le sujet dont on parle pour le moment, cette explosion des coûts de l'énergie. C'est un sujet évidemment qui politiquement est très sensible. Il s'invite au conclave budgétaire du gouvernement d'Alexandre de Croo. Il pose des questions fondamentales par rapport au mix énergétique du futur. Mais pour l'instant, on se demande surtout, alors que la commission de régulation parle d'une hausse attendue de 700 euros, mais il y a des chiffres plus élevés pour la facture des ménages qui arrive. Donc on cherche notamment à voir comment on peut compenser ça pour les revenus les plus faibles. Alors Damien Ernst, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un tweet il y a quelques jours, si je ne m'abuse, c'était « Il n'y a pas une crise de l'énergie, il y a un cataclysme énergétique ».
Enfin, réaliser, en fait, dans votre introduction, qu'est-ce que vous dites? Il va faire falloir protéger les ménages ayant les revenus les plus faibles.
Vous êtes politiquement,
si...
il dit ça, hein,
oui,
c'est
mais
pas
comme
moi
si
qui
ça
dis ça.
n'allait pas impacter la classe moyenne. Mais ici, si le gaz continue encore quelques mois à être à 100 euros par mégawatt-heure, vous avez certains ménages qui vont être exposés à une augmentation de leur facture de gaz et d'électricité de 1 500 euros par an. Donc, vous n'êtes plus dans une situation où c'est juste quelques dizaines d'euros et c'est des gens, on va dire, les plus pauvres qui ne savent pas la payer.
Oui, donc le
1 500
tarif
euros.
social, c'est pas assez,
Mais
quoi, en
non,
gros. Hein.
1 500 euros par an, vous impactez la classe moyenne. C'est souvent, parfois, une partie du budget de vacances de toute la classe moyenne. C'est les cadeaux de Noël pour les enfants, et même beaucoup plus. Donc il faut maintenant bien prendre conscience, en fait, de ce problème auquel on doit faire face.
Et le monde de l'économie aussi, les entreprises, ça va aussi
Mais
les impacter.
les entreprises, qu'est-ce qu'elles voient? Elles vont voir en quelques mois, elles ont vu en quelques mois leur facture de gaz ou d'électricité quand ils étaient soumis à des prix variables, quoi, quadruplé, peut-être triplé, quadruplé. On sait déjà en fait que ça a impacté souvent la compétitivité de nos entreprises en Europe, surtout en Belgique. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Imaginez une entreprise qui a par exemple vendu des produits à l'avance à prix fixe. Beaucoup d'entreprises font des contrats, elles vendent des produits à prix fixe. Vous vous retrouvez exposé à un prix d'énergie tellement élevé et vous devez vendre ces produits à prix fixe par la suite. Ben, vous n'avez plus de marge, vous n'avez plus de marge, vous faites un déficit, vous coulez. Et à ça s'ajoute le fait qu'aux États-Unis, par exemple, le gaz et l'électricité sont nettement moins chers qu'en Europe. Les États-Unis bénéficient d'une zone de prix extrêmement bon marché pour le gaz, liée à la pléthore de gaz de schiste et des capacités d'export limitées vers les autres pays. Donc ils ont une zone de prix très très basse en fait. Ils payent le gaz maintenant 5 fois moins cher qu'on le paye ici en Europe. Comment est-ce que vous voulez qu'un chimiste européen qui a besoin de beaucoup de gaz puisse en fait faire face à une industrie américaine
oui,
qui peut avoir
c'est
le
notre
gaz à 5
compétitivité
fois
qui est
oui,
menacée en fait.
5 fois moins cher. Ben, ce n'est pas une compétitivité menacée, c'est du carpet bombing que vous faites là sur tout le tissu industriel européen. Du carpet bombing.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, vous avez été, je crois, un des premiers, on vous riait au nez parfois, ou en tout cas on disait quel catastrophiste à dire il y a 2 mois, il y a un vrai problème qui se pose. Est-ce qu'on ne l'a pas vu venir?
Mais monsieur Mouton, il faut arrêter à un moment donné. Moi, je n'ai pas dit ça sans m'être renseigné un peu. Hein. Donc, je me souviens très bien, j'étais en vacances dans ma belle famille en Espagne. Il était fin juillet, j'ai plus de temps, j'analyse plus ce qui se passe sur le cours des marchés. Je vois déjà un prix du gaz qui commence à arriver 35, 37. Bon, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je prends mes renseignements. J'ai un ami qui est trader à Singapour, qui achète et qui vend des bateaux d'LNG pour l'Asie. On discute, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va redescendre? 35, c'était déjà énorme. Hein, on était 10 à 18 avant. Ben, il me dit, écoute, il va remonter. Parce que là, moi, j'ai tous mes acheteurs asiatiques, ils ne veulent pas acheter à ce prix-là, mais à un moment donné, en octobre, novembre, ils veulent déjà acheter. Donc on savait en un coup de fil, ça m'a pris une demi-heure en fait. Je savais qu'on était très serré sur la filière LNG, en fait. Et je savais que ça n'allait pas s'améliorer parce que les acheteurs asiatiques allaient acheter plus tard, quoi. Il y avait un délai, donc ils postposaient leurs offres d'achat. Donc je savais qu'il y avait un gros problème sur la filière LNG. Je me suis renseigné avec des gens de Gazprom pour savoir ce qui restait chez les Russes, en fait, de capacité. Ils n'avaient quasi plus de capacité libre. Enfin, 200, 300, 400 TWh de capacité libre. Donc quasi zéro quand on voit la taille du marché du gaz. gaz. Donc plus de marche au niveau de la Russie pour envoyer plus de gaz en Europe, marché LNG hyper stressé, c'était clair que la crise était actée dès la fin juillet. Moi je le savais dès la fin juillet.
Il y avait juste exprimé. Enfin, à ce moment...
Je l'avais exprimé dès la fin juillet, j'ai fait des dizaines de messages dès la fin juillet, j'ai alerté les médias, les hommes politiques en disant attention, et... quelque chose de terrible va vous tomber dessus. Bah, pas de réponse en fait, pas de réponse. Pourquoi ? En Belgique, hein, dans d'autres pays, par exemple l'Espagne, l'Italie, cette crise-là, on en discute depuis début août. Hein, on en discute depuis début. Alors pourquoi est-ce qu'en Belgique, comme ça, on a des œillères ? Parce qu'en Belgique, on est rentré dans une fable, le Disneyland en fait du monde énergétique.
C'est-à-dire ?
Le Disneyland, il n'y a plus de rationalité, Monsieur Mouton, il n'y a plus de rationalité. On est dirigé en fait par des rêveurs qui rêvent en fait de remplacer le nucléaire par je ne sais pas quoi, enfin on le sait en tout cas en partie.
De fermer les centrales comme c'était convenu. Ouais.
Et dès que vous allez en Belgique un peu à l'encontre de ce discours anti-nucléaire primitif, vraiment primitif, primitif sous toutes ses formes, parce qu'il a un vrai manque de rationalité, ben, le discours ne passe plus en Belgique. Il y a un gros problème, dans votre milieu aussi, il y a un gros problème dans le monde journalistique aussi. Ils ne peuvent pas entendre autre chose que cette fable écologiste anti-nucléaire. Et arriver avec un argument en leur disant « vous allez remplacer par des centrales au gaz, qui soi-disant allaient être bon marché, mais vous avez un prix du gaz qui va exposer des problèmes de capacité », ça ne passait pas. Donc il n'y a plus, on n'est plus dans le tissu belge francophone en capacité, que ce soit au niveau de la presse, je le redis, grosse responsabilité au niveau du monde politique, d'entendre autre chose en fait que cette fable du remplacer le nucléaire par du gaz ne va rien coûter, ne va pas émettre de CO2. Donc je ne sais pas ce qui se passe ici en Belgique. –
On en parle ici, hein, donc ça montre qu'il y a un espace pour en parler.
– Il y a un espace pour en parler, mais je vois quand même que cet espace n'est pas très élevé dans la presse francophone. –
Si on monte aux sources, donc effectivement il y a un point de départ, alors je vais essayer de le résumer en trois têtes, hein. Vous me dites si je me trompe. Il y a un effet de la relance économique et de besoins sans doute qui sont importants dans certaines parties du monde. Il y a une question géopolitique où on est complètement dépendant au niveau énergétique du reste du monde, dont de certains endroits qui ne sont pas simples à gérer, je pense à la Russie, mais à d'autres. Et alors certains ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a un effet aussi de spéculation sur la transition écologique et notamment le coût énergétique futur. Donc certains anticipent. Est-ce que j'ai résumé les sources de la crise ?
– Donc une autre source de la crise, c'est qu'effectivement ces dernières années, il y a eu énormément d'attaques sur le monde en fait gazier, pétrolier, du charbon, hein, et ils ont eu un peu peur d'investir. Mais donc on a réalisé en fait une transition au niveau planétaire, écologique, en fait un peu de la peur, mais qui n'était pas, on a fait peur à ces investisseurs dans ce domaine-là.
Oui, donc il y a eu un peu anticipé. Enfin,
oui, mais il y a eu un sous-investissement. Mais ce qu'on n'a pas fait en fait, hein, quand vous faites peur, donc vous voulez diminuer l'offre en fait pour du gaz ou des choses comme ça, ben vous devez faire attention de votre côté d'avoir diminué aussi la demande. Mais nous, on n'a absolument pas travaillé sur la diminution de la demande. La demande va même continuer à augmenter en Belgique, en Allemagne dans les années qui viennent avec la sortie du nucléaire. Vous êtes en Wallonie, par exemple, vous construisez un immeuble en fait avec ces normes de PEB. Le prix, c'est toujours moins cher maintenant d'installer des chaudières au gaz, par exemple, par rapport à des pompes à chaleur. Donc vous voyez, on a vraiment très 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 mal travaillé et donc on s'est retrouvé dans une situation…
– On n'a pas anticipé, là, en l'occurrence.
– On n'a pas anticipé, on n'a pas eu de professionnalisme dans l'établissement d'une politique énergétique. On a fait comme si on anticipait, mais excusez-moi, il n'y a plus de professionnels maintenant de politique énergétique en Belgique. Il n'y a plus de professionnels. On a l'impression que c'est des idées de bisounours, mais qu'il y a des difficultés. Elles sont très bien, ces idées-là, elles font rêver. Mais qu'à un moment donné, on est quand même dans un domaine sérieux, en fait, dans lequel il faut agir de manière rationnelle.
– Parce que quand on résume, on sait depuis le début des années 2000 qu'on va sortir du nucléaire, on sait que la question climatique, elle est à la tête de l'agenda, on sait qu'on doit imaginer le mix énergétique du futur, donc c'est ça. Qui fait qu'on avait un espace-temps dans lequel on aurait pu agir.
– Oui, on a un espace-temps dans lequel on pourrait agir, mais il ne faut jamais croire que c'est… Ce n'est pas parce que vous avez un grand espace-temps, ça va ? Si je vous dis par exemple…
– Oui, peut-être voilà, au contraire.
– Je vais vous faire une image. Monsieur Mouton, je vous laisse 5 ans pour vous entraîner et sauter à 3 mètres de haut. Ça va ? Vous avez 5 ans, vous pouvez vous entraîner, si vous avez le temps pour vous entraîner. Vous n'arriverez pas à sauter à 3 mètres de haut, je ne pense pas. Ah ben, c'est peut-être la même chose, on a peut-être laissé du temps, mais peut-être pas de solution. ou bien il y avait des contraintes techniques qui faisaient en sorte que, même si vous pensez que 20 ans, c'est du temps, qu'en fait, de la planification énergétique, quand il y a une telle dépendance aux énergies fossiles, c'était très peu de temps aussi.
– Pour basculer.
– Pour basculer, planter une éolienne, combien est-ce que ça vous prend de temps en Wallonie? À partir du moment où vous commencez à développer le projet, ben dites un nombre d'années. Combien? 6 mois? 1 an? 5 ans?
Bon, plutôt 5, à mon avis.
Plutôt 10. On peut aller jusqu'à 10 ans. Ouais, ouais. Une ligne de haute tension, une nouvelle ligne, on sait qu'on doit en construire beaucoup. Bah, ça prend 10, 15, 20 ans. Donc tout prend du temps, en fait. Chaque fois que vous devez investir dans des infrastructures, on vous devait investir dans des infrastructures.
Toute la question
pour passer
de comment,
dans un monde décarboné, ça prend du temps.
Ouais. Toute la gestion, par exemple, de la filière d'énergie renouvelable et comment on stocke l'énergie, par exemple, enfin, toutes ces questions-là.
Tout ça prend
quoi.
Du temps. Ouais, il y a des questions techniques qui ne sont pas posées.
Mais je veux dire, est-ce que l'explosion des coûts là maintenant dont on parle, est-ce qu'elle est en partie liée à ça? Est-ce qu'elle est en partie liée au fait qu'on n'a pas géré suffisamment?
Oui, elle est en partie liée. Une très mauvaise négociation aussi de la relation entre l'Europe et la Russie. À un moment donné, l'Europe a un peu snobé la Russie. La Russie, tout le monde sait, elle veut des contrats long terme d'approvisionnement pour le gaz. Elle ne voulait pas être exposée à un prix du marché spot sur le gaz. Elle voulait faire des gros investissements, des gros gazoducs, ce n'est pas facile. Bon, l'Europe l'a un peu snobé pendant des années en se disant « oui, nous, on va diversifier, on va aller sur le marché LNG ». Elle s'est dit en premier temps « oui, on fait des affaires, le gaz est bon marché ». L'Europe n'a même pas compris, en fait, à un moment donné, l'Europe est passée du principe, n'ont pas réfléchi, que le LNG allait toujours être bon marché, mais ils n'ont pas compris que ce gaz était… l'Asie commençait à l'aimer beaucoup, en fait, qu'il y avait un gros client, l'Asie, pour ce gaz, en fait, une grosse croissance de la consommation pour ce gaz, avec des investissements assez limités au niveau de l'offre, et à un moment donné, les courbes se sont inversées, et on observe cette hausse de prix que l'on observe à l'heure actuelle. Moi, je le savais depuis 2020, en fait. Depuis 2016, je savais qu'en 2020, c'était une année charnière pour le gaz. Toutes les prévisions montraient… –
Hors Covid et tout ça.
– Hors Covid, toutes les prévisions montraient qu'en 2020, jusqu'en 2020, on était plutôt en excès de capacité. À partir de 2020, en fait, les courbes risquaient un peu de s'inverser. On n'a pas vu en 2020, pour les raisons qu'on sait, le Covid. Et maintenant, je pense que cette crise-là, qui était prévisible, on savait que ça allait mal se passer, arrive en 2021.
– J'ai une question qui est par rapport aussi aux racines, après on verra aussi des solutions. L'association de consommateurs Test-Achat envoyait un communiqué en disant « pas oublier non plus qu'en Belgique, la facture est aussi une seconde feuille d'impôt ». Alors on sait que dans les solutions dont on parle pour le moment, certains partis avancent la TVA, bon évidemment le tarif social, mais on parle éventuellement de transformer une part en accise. Enfin, il y a quand même visiblement dans les leviers d'action quelque chose qui confirme cette idée-là, c'est-à-dire que dans le coût que les citoyens, les entreprises payent, il y a aussi une part de contribution à l'État, en fait, ou pas ?
Il y a une part de contribution à l'État, il y a une part de contribution aux communes, il y a une part de contribution à beaucoup de personnes. Mais maintenant, ce vieil adage où les gens disaient « oui, la facture d'électricité, c'est qu'un tiers l'énergie, c'est un tiers des taxes et un tiers les tarifs de distribution,
c'est faux,
de transmission », ah, maintenant, avec l'augmentation du prix de l'énergie, il est complètement faux. Maintenant, c'est la moitié le prix de l'énergie, ou même plus que la moitié le prix de l'énergie. Ce qu'on a bénéficié, c'est vrai qu'il y a eu une incurie à plein de niveaux dans la gestion, en fait, des systèmes énergétiques en Belgique. On a eu beaucoup de chance sur les marchés de gros. Le prix sur les marchés de gros, ils sont restés très faibles. Ils ont même descendu pendant quelques années, alors que souvent les autres contributions augmentaient. Donc le consommateur, en fait, n'a pas vu l'incurie, pas trop vu l'incurie dans sa facture. Mais à un moment donné, la partie énergie a réaugmenté. C'est ce qu'on observe. Et là, c'est la catastrophe. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que c'est maintenant les consommateurs en fait vont voir en fait une facture d'électricité et de gaz terriblement élevée avec une augmentation des acomptes et les gens vont être terriblement mécontents. Ils vont aussi être mécontents parce qu'on va probablement voir arriver aussi une inflation massive en fait qui va grignoter l'épargne de la classe moyenne. En Gates Factory, donc en sortie d'usine en fait, les produits, que ce soit en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, on est à 10% d'inflation. En Allemagne, en fait, l'inflation consommateur, on est plus à 4%, mais moi je crains que ce 4%-là, dans les mois qui viennent, ne risque de s'aligner sur le 10%.
Et on parlait de 4% effectivement en Belgique aussi.
C'est déjà colossal, mais moi je ne peux pas exclure à ce stade-ci qu'on est vers une inflation beaucoup plus élevée et je ne sais pas du tout comment en fait des banques centrales vont réagir. Est-ce qu'on va augmenter les taux d'intérêt? Je ne sais pas, sachant qu'on a des États très endettés qui ont besoin, j'ai envie de dire, d'argent très peu cher, en fait, maintenant, pour pouvoir se financer. Donc je pense qu'aussi derrière cette crise, en fait, énergétique, en fait, se cache probablement une crise économique aussi. En général, au niveau planétaire, quand vous avez des prix qui flambent à un moment donné de combustibles fossiles, ça se passe très très mal au niveau économique par la suite. Regardez les crises des années 70.
Oui, j'allais dire, la crise pétrolière des années 70.
Regardez 2008, la crise de 2008, le baril de pétrole était monté jusqu'à 150 $ le baril. Ça ne s'est pas très bien passé après. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui me fait peur.
Oui, c'est un cocktail. On se rend compte que politiquement, alors certains disent par exemple aujourd'hui pour, dans un gouvernement, les ministres de l'énergie sont sans doute les ministres les plus importants, en tout cas potentiellement et pour les années à venir. Bon, on sait toute la réflexion en Belgique sur, on en a parlé, sur la sortie du nucléaire, sur le mix énergétique, etc. Mais bon, tout ce dont on parle là maintenant, est-ce que effectivement c'est… potentiellement une bombe à retardement, ou elle est déjà en train d'exploser, en fait.
– La bombe, elle a explosé. Vous avez une bombe sociale, parce que socialement, ça va quand même être très très difficile pour les ménages de voir leur pouvoir d'achat amputé peut-être pour certains ménages de 1 000 à 1 500 euros. Bon, c'est bien beau le chèque du gouvernement de 100 euros, mais ça va couvrir quoi 10%, 7% peut-être de la facture réelle. Vous allez avoir un frein de la croissance économique, beaucoup d'usines qui vont fermer, du chômage aussi, et un État, avec cette inflation qui arrive, qui risque d'être secoué aussi financièrement. Donc moi je pense qu'on est ici, le temps nous le dira, mais je pense qu'on est quand même ici, derrière une bombe potentielle en fait, comme on n'a plus connu depuis des années et des années.
– Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors maintenant on parle là, on parle de sparadrap, mais… ou en tout cas de compensation pour des plus démunis. On a parlé de la classe moyenne. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, pas oublier la classe moyenne, le secteur économique. Mais comment on peut, quelque part, remettre le train sur les bons rails? Parce que c'est ça la question maintenant. Alors on va peut-être parler du fait qu'il y a deux centrales à prolonger, par exemple, dans la réflexion. Mais est-ce que c'est ça ou bien c'est quelque chose de plus fondamental? –
Monsieur Mouton, il faut bien vous dire qu'on a une crise du gaz, un manque d'approvisionnement en gaz, alors qu'on n'est pas encore sorti du nucléaire en Belgique et qu'il reste toujours 8 gigawatts de nucléaire à fermer en Allemagne. Donc vous pouvez faire les comptes, l'Allemagne l'année prochaine ferme 8 gigawatts de nucléaire, c'est 100 TWh en plus de gaz qu'il va falloir à l'Allemagne pour compenser ça. C'est la moitié de la consommation de gaz de la Belgique. Ça va provoquer une augmentation de l'offre, de la demande pour le gaz en Europe. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui a tendance à faire plonger les prix vers le bas. On va aussi commencer à perdre dès l'année prochaine un premier réacteur nucléaire, augmentation additionnelle de la consommation de gaz en Belgique. Donc on s'est mis dans une situation quand même où on a une grande soif pour du gaz, du combustible fossile, en pleine crise du gaz. Quand on a construit la flotte nucléaire, hein, principalement construite dans les années 70-80, c'était justement en réaction avec les crises du pétrole qu'on avait vues. Ici on fait l'inverse, on a une crise du gaz, qu'est-ce qu'on fait? On continue à fermer notre flotte nucléaire. Il ne faut pas être très malin pour voir que ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde, quoi.
– Pourtant, si j'ai bien entendu, Tim van der Straaten et le gouvernement fédéral, c'est quand même le cap qui va être suivi.
– C'est dans leur accord de gouvernement, voilà. Maintenant, est-ce que les Belges sont d'accord avec ça? Est-ce que les Belges, en fait, sont d'accord de voir une facture d'électricité qui va exploser et de gaz qui va exploser? Est-ce qu'ils sont d'accord d'avoir plus d'émissions de CO2? En grande majorité, non. Ils sont très raisonnables.
– Mais ces deux centrales ne vont pas tout résoudre, on est d'accord.
Ils ne vont pas tout résoudre, mais bon, c'est un peu comme si vous aviez le feu à votre maison. Je ne sais pas, rajouter 2 litres d'essence dessus, c'est pas une bonne idée. Donc, effectivement, sans rajouter les 2 litres d'essence, vous avez toujours votre maison en feu, mais… Il faut à un moment donné un peu de bon sens. Et ce bon sens-là, on l'a complètement perdu en termes de politique énergétique. On n'a plus de bon sens, on a de la naïveté aussi, par rapport à la Russie qui a très très bien joué son cours en diversifiant les clients au niveau gaz, et on a perdu de la technicité aussi. On a perdu énormément de technicité.
– Et quoi, c'est la complexité belge, la souvent bon dos ?–
Oui, la complexité belge, parfois la faiblesse des gens en fait, qui s'occupent dans les cabinets de l'énergie. Ici, vous allez avoir probablement énormément de problèmes à résoudre. En Angleterre, par exemple, il y avait 50 fournisseurs en fait. Hein, souvent ces fournisseurs-là avaient des stratégies de trading où ils étaient short, donc un peu court. Ils achetaient un peu moins sur les marchés à l'avance que ce qu'ils avaient promis à leurs clients, que ce que leurs clients allaient consommer. Ben, on pense qu'à la fin d'hiver, il y en aura peut-être 5 ou 6 qui survivront sur les 50. Est-ce que, par exemple, tout est bien pensé ici, en Belgique, pour faire face peut-être à des faillites d'éventuels fournisseurs ou en France? Est-ce qu'on a pensé aussi parfois à ces fournisseurs, en fait, qui se fournissent chez d'autres personnes sur les marchés, en fait? Est-ce qu'on a pensé peut-être que ces autres personnes-là pouvaient être à un moment donné en faillite et incapables de fournir les fournisseurs, même s'il avait très bien géré son budget? Est-ce qu'on a pensé à tout ça? Est-ce qu'on a pensé que peut-être en cas d'hiver froid, on a juste un manque physique de gaz? On a peut-être, quel que soit le prix, est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'il y a des plans? Est-ce qu'il y a des stratégies? Que va faire un pays comme l'Allemagne s'il voit qu'il n'y a pas assez de gaz en Europe, sachant qu'il a Nord Stream 1, Nord Stream 2, et il y a la Yamal Pipeline là, qui arrive vers l'Allemagne, donc il a la porte d'entrée, une des portes d'entrée du gaz européen. Est-ce qu'il va vraiment jouer le jeu des marchés ou est-ce qu'il va garder le gaz pour lui? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne pense pas, on est terriblement naïf. Donc cette impréparation me fait terriblement peur.
– Et est-ce qu'il y a… Je vais poser la question de manière un peu provocatrice, mais est-ce qu'il y a un calcul de se dire une facture énergétique plus haute, quelque part, c'est une façon de décourager la consommation ?
Mais on sait très bien que dans le mouvement de tout ce qui est écologiste décroissant, quand même, qui occupe quand même, enfin, qui influence énormément la politique maintenant énergétique et écologique.
La ministre disait ça en fait.
Il y a une sorte de. Ils ne vont peut-être pas le dire ouvertement, mais en tout cas, j'ai l'impression que chez eux, il y a une sorte de satisfaction cachée à avoir un prix de l'énergie qui augmente. Ils défendent toujours des modèles de société un peu décroissants, de la sobriété. Donc pour eux, avoir une énergie rare, chère, rend compte leur objectif. Ils sont cohérents avec leur objectif. Donc voilà, on ne peut même pas leur reprocher
dans leur vision, en tout cas.
Ils sont cohérents. Donc, est-ce qu'ils ne vont jamais le dire explicitement face à vous, je suis pour une facture chère ou des choses comme ça? Mais au fond d'eux-mêmes, oui, c'est ça. Ils ne veulent pas d'une facture d'électricité. Par exemple, pour le tarif de distribution, j'ai déjà discuté avec ces gens-là, hein, vous parliez de la facture d'électricité des gens, ben, le tarif de distribution, il est proportionnel au nombre de kilowattheures d'énergie que vous consommez. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le dimensionnement d'un réseau de distribution, c'est ce qui coûte cher, dépend des pointes et pas de la quantité d'énergie que vous consommez. Donc il faudrait faire un fixe pour le tarif de distribution, un peu comme un fixe pour votre abonnement TV. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens qui consomment beaucoup soient pénalisés financièrement. Donc ça, c'est un exemple très concret, en fait, qui montre en fait, qu'ils sont dans cette logique où il faut pénaliser financièrement les gens qui consomment beaucoup d'énergie. Alors que moi, je pense différemment. Je pense que vraiment, pour une société fonctionne bien, il faut une énergie abondante et pas chère. Sinon, vous commencez à avoir des problèmes.
– Et est-ce que ça veut dire que… quand on est professeur d'université, qu'on s'engage fort, c'est votre cas dans le débat de société, vous le faites en assumant un prisme idéologique ou politique. On sait que vous avez oreille parfois au MR, par exemple. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est venu par la force des choses.
J'ai travaillé avec tous les partis politiques. Mm-hmm. J'ai déjà reviewé des documents, donné des conférences, donné des conseils à tous les partis politiques en Belgique francophone. Donc je le fais avec tous les partis politiques. Maintenant, il est très clair, j'ai aussi beaucoup lu sur ce sujet ces dernières années, il est très clair que moi je ne crois pas du tout à une écologie de la décroissance.
Ça va. Voilà, c'est je ne crois pas du tout. Cette espèce de fracture.
De fracture là. Je ne crois pas du tout que c'est une bonne idée de sortir du nucléaire, pour plein de raisons, et notamment une grosse raison.
Vous avez évolué d'ailleurs, si je ne m'abuse. Hein,
oui, j'ai évolué. En 2017, j'ai envie de dire que j'avais beaucoup moins réfléchi à la question, et j'ai pris, comme vous, comme beaucoup de personnes d'Equidam, j'avais pris la mouvance, peut-être un peu influencée par cette mouvance, du bashing anti-nucléaire, de beaucoup de mensonges qu'on racontait sans réfléchir. En 2017, à partir de 2017, j'ai beaucoup plus étudié la filière nucléaire. J'ai discuté avec des gens de nucléaire de partout en Europe, je me suis intéressé aux nouvelles technologies, j'ai fait un travail de scientifique. Et donc, j'ai aussi beaucoup plus travaillé à partir de 2017 sur des problèmes de planification énergétique. Donc, quand vous avez un certain mix, comment est-ce que vous basculez sur un autre mix? C'est une science, ça, monsieur Mouton.
C'est une science. – On parlait notamment sur le stockage,
comment est-ce que vous pouvez le faire? Et j'ai aussi pris beaucoup plus conscience, ça je l'avoue, depuis 2017, vraiment du problème climatique et de cette crise climatique qui était avec, on a quand même vu de ces 5-6 dernières années,
son
impact et des accélérations au niveau du réchauffement des pôles qu'on n'avait absolument pas prévu. Donc on peut se demander, si on n'avait pas prévu ça, il y a peut-être encore d'autres choses qu'on n'avait pas prévues.
Peut-être que ça plaide pour la décroissance, voilà. Que certains disent non.
Ces trois éléments-là font par exemple en sorte que j'ai changé ma position sur le nucléaire. Alors pourquoi est-ce que la décroissance ne marche pas? Parce que vous allez le voir très bien maintenant. À partir du moment où les gens… Parce que la décroissance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les gens qui n'ont plus de boulot.
Moins, a priori.
Ben non, c'est des gens, c'est des usines qui ferment, c'est des gens qui n'ont plus de boulot, c'est toute une classe moyenne qui se retrouve en difficulté. Parce qu'il n'y a pas d'écologie de la décroissance. À un moment donné, quand les gens sont mal, n'ont plus à manger ou perdent leur pension, ont des difficultés pour payer leurs factures, ben, ils se battent pour ça. Ils ne se battent plus pour l'environnement. C'est pour ça que la décroissance, en fait, tue même en fait, la pensée écologique et le respect que vous pouvez avoir pour la décroissance. Aller dans des pays comme l'Afrique ou dans des pays comme l'Asie où les gens sont pauvres, ils ne vont jamais vous parler d'écologie. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qu'ils veulent du tout. Et donc, en plus, je pense que moi, c'est la technique, en fait, qui va résoudre la quasi-totalité des problèmes écologiques. Je ne vois pas un seul problème écologique qu'on ne sait pas résoudre en construisant des machines ou avec de la technique. Donc, effectivement, moi, je défends cette ligne-là. Mm-hmm. Ligne aussi qui est très cohérente avec ma profession, qui est une profession d'ingénieur. Qu'est-ce qu'un ingénieur fait?
Il y a un problème. Chercher des solutions techniques.
Il y a un problème, il construit une machine pour trouver une solution. Mais maintenant, enfin, ici, c'est en Europe. En Asie, ils sont vraiment dans cette logique-là. En Europe, c'est presque devenu tabou de dire il y a un problème, on construit une machine pour trouver une solution. En fait, c'est ça.
C'est presque un problème culturel.
C'est presque un problème culturel. L'Europe déteste, en fait, est devenue déteste l'ingénierie.
Hein, – Oui, c'est vrai, c'est le sentiment que vous avez.
– Elle n'est plus amoureuse. –
Votre fonction n'est plus reconnue, en fait.
– Ça, si, enfin, je n'exagère pas, mais il n'y a plus l'amour, en fait, de la technique, de l'ingénierie. On n'est plus dans le Paris du XXe siècle où les gens étaient extasiés par le fait qu'on construise la tour Eiffel ou ce genre de choses-là. On parlait de la fée électricité. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il y a une distanciation très, très forte maintenant par rapport à l'ingénierie en Europe, hein. En Europe, que vous n'avez absolument pas en Asie, absolument pas. Ils adorent ça en Asie. Et voilà, et ça, je pense
que… – C'est une foi en l'avenir, peut-être aussi. –
C'est une foi en l'avenir. Pour moi, l'ingénierie, c'est une foi en l'avenir, c'est une foi en l'homme, c'est une foi en l'humanité, c'est une foi aussi à la capacité de l'homme à créer des choses qui n'existent pas pour résoudre des problèmes qui existent. Et ça, on a perdu cette foi-là terrible en Europe. Et je pense que, intrinsèquement, c'est aussi une des raisons pour laquelle en fait l'Europe en fait n'est plus sur le devant de la scène au niveau de l'innovation, de la technicité, de l'ingénierie. Les États-Unis, l'Asie nous a dépassé. Donc c'est un problème culturel en fait.
Oui, et presque de société. Enfin, dire, quand on parle, on parlait d'une crise énergétique au départ. On a parlé d'une crise économique. Et ici, on parle de quelque chose encore plus vaste, quelque part.
Ah, – il y a une crise, oui, il y a une crise sociale, culturelle en Europe. Et je pense que dans plein de domaines, d'autres domaines que je connais moins bien, qui sont le domaine des OGM, de la nourriture. Moi, j'ai beaucoup d'articles là-dessus, j'aime bien, je suis curieux. Dans des trucs comme ça, je trouve qu'il y a des inventions fantastiques. Je pense que ça va aider énormément de pays du monde à utiliser moins de terres cultivables, moins d'insecticides, moins de pesticides pour pouvoir mieux se nourrir. Il y a des tabous comme ça en Europe. Donc il y a des tabous en fait un peu idéologiques comme ça qui existent en Europe qui font en sorte qu'on ne peut pas accepter en fait que pour résoudre des problèmes, la technique en fait, les industries en fait ont un rôle très très important à jouer. Et je pense que c'est ça un des mal principaux, des maux principaux de l'Europe à l'heure actuelle. –
Qu'est-ce qui fait aussi que quelque part vous assumez votre choix entre guillemets engagé? J'ai bien entendu que vous avez travaillé avec tout le monde, mais qu'il y a un choix que vous faites aujourd'hui de vous engager dans le débat de société, quoi, quelque part. –
Oui, c'est un choix que j'ai toujours fait. En fait, je n'ai jamais fait le choix de m'engager dans le débat de société. Bon, j'ai toujours dit que ce que je pensais, mais ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a aussi la société, en fait, aime aussi entendre un autre son de cloche qu'un son de cloche, en fait, qui est quand même…
– Qui devient dominant. –
Qui devient dominant, surtout en Belgique francophone. Dans d'autres pays, la France, les Angleterres, vous avez sans doute, en fait, beaucoup plus de diversité d'opinions. Pour la Belgique francophone étant assez petite, c'est aussi difficile parfois de maintenir un tissu presse, hein, aussi financièrement, qui permet parfois une plus grande diversité d'opinions.
– Eh bien, Damien Herz, merci beaucoup, c'était passionnant. On voit qu'on est… face à une question qui est ample, hein, on parle de la facture énergétique, évidemment ça concerne tout le monde, les citoyens comme les entreprises, mais on voit aussi que derrière ça se cachent des enjeux économiques, bien sûr, politiques, géopolitiques, et même presque civilisationnels. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question pour l'instant. On attend évidemment les réponses qui vont être apportées, mais merci beaucoup en tout cas pour ce moment et pour ce Trendstalk qui se termine ici, et à la prochaine fois avec plaisir. Merci à vous.